On va donc tout de suite vous présenter un projet de une recherche qui est finalisée, qui traite de la disqualification. À la prise de parole en santé mentale. Le titre complet s'affiche, est une recherche sur les conditions d'émergence, de reconnaissance et de prise en compte de la parole des personnes dites handicapées psychiques par les décideurs publics. C'est une recherche dont les résultats seront présentés officiellement le mercredi 20 juin, il y aura une restitution au ministère des Finances. J'en profite tout de suite, comme ça on n'oublie pas, pour vous signaler qu'il y a des petits flyers qui vous invitent à vous rendre à cette journée de restitution. Mais avant cela, on va bien sûr vous en dire beaucoup plus. J'accueille donc dans l'ordre Florence, Jeanne, Bernard, Laetitia et Isabelle. Est-ce que Florence, vous avez un micro qui marche vous aussi, je l'espère ?
Un, deux.
Ça marche. Ouais. Normalement, ils vont marcher. Alors, Florence, vous êtes secrétaire générale d'Advocacy France et usagère en santé mentale. Et c'est Advocacy France qui est à l'origine de cette recherche dont on parle aujourd'hui. Et vous allez nous dire un mot, peut-être pour commencer, de comment vous est venue cette initiative, sachant qu'en France, la loi impose clairement à la société et aux institutions de lever tous les obstacles liés au handicap pour que chacun et chacune ait accès à une vie autonome et citoyenne. Alors, malgré cela, j'allais dire, malgré la loi, pourquoi cette recherche ? Est-ce à dire que ce n'est pas tout à fait le cas dans la réalité ?
Tout d'abord, je vais présenter l'association qui est Advocacy France, que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent. C'est une association d'usagers en santé mentale. Ça change le regard sur les professionnels et eux changent leur regard sur nous. Moi, j'ai eu la chance de la créer il y a 20 ans avec d'autres personnes. Et je l'ai présidé pendant 2-3 ans jusqu'à ce que je fasse un bébé. Et puis après, voilà, je n'ai pas pu continuer. Je suis devenue secrétaire générale. La recherche, c'est aussi pour dire qu'on a des choses à dire. C'est aussi oser aller parler aux professionnels en notre nom propre. Parce qu'on n'a pas toujours accès à ces personnes-là. C'est plutôt dans l'autre sens que nous qui allons les interroger pour leur demander ce qu'ils pensent sur... sur notre vie. C'est nous qui avons les clés en main de notre vie. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est rien sans nous et tout avec nous. Voilà. Il y a aussi le credo de l'association qui est ceux qui sont peu habitués à écouter, le jour où ceux qui sont peu habitués à écouter entendront ceux qui sont peu habitués à parler. Voilà. Ça veut dire que on peut échanger les uns avec les autres. Et je déteste le mot handicapé. J'ai beaucoup entendu aujourd'hui. Et vraiment, franchement, je suis désolée, mais ça me choque. Je dirais plutôt personne en souffrance. Hein, plutôt que personne en situation de handicap, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire.
Merci Florence. Gardez le micro. Vous allez continuer à intervenir quand bon vous semble. Alors ça tombe bien, vous disiez à l'instant, le plus important, c'est de donner aux personnes concernées, leur redonner leur capacité d'agir. On parlait à la table ronde d'avant d'empowerment. C'est au cœur de la recherche. Et là, je me retourne vers chacun d'entre vous qui pourra témoigner là-dessus. Mais la recherche a ça de très spécifique que les personnes en souffrance psychique, les premières concernées, ont été au cœur de la recherche et vous avez créé, entre guillemets, le statut de chercheur-acteur, de chercheur-enquêteur, de chercheur-collectif, je ne sais pas quel est le meilleur terme à employer, mais en tout cas, voilà, vous avez voulu que cette recherche soit menée par les personnes concernées. C'est une première en France, à ma connaissance, à la vôtre aussi peut-être. Alors, quelle a été... Alors, peut-être d'abord un mot avec Isabelle ou Florence. Vous êtes toutes les... Isabelle ou Laetitia, Isabelle. Vous êtes toutes les deux chercheurs aussi en sciences sociales. C'était une volonté, donc, dès le départ, d'intégrer pleinement à la recherche tout le monde, en fait. Et en quoi ça vous a peut-être apporté ou perturbé, pourquoi pas, au début. En tout cas, comment vous avez intégré ces personnes et vécu cette recherche avec elles ? Alors peut-être Isabelle.
Oui, c'était le défi de cette recherche que de s'appuyer sur les usagers en santé mentale eux-mêmes, hein, pour à la fois mener une investigation sur les problématiques qui sont, auxquelles ils sont confrontés, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien, et donc d'aller interpeller les décideurs publics, les élus, les politiques, les professionnels auxquels ils ont affaire sur ces questions-là. Hein, c'était du coup, ça partait du double constat que les usagers en santé mentale rencontrent souvent un ensemble de difficultés, hein, dans les relations avec les institutions qui s'adressent à ces personnes, des difficultés en termes d'inclusion sociale, des difficultés en termes d'accès à la prévention et aux soins, et de la part des institutions, une difficulté à pouvoir entendre ces personnes et à prendre aussi au sérieux leurs paroles, hein, ce qu'elles peuvent exprimer. C'est toute la difficulté avec les personnes qui sont dites usagées en santé mentale, hein, les termes qu'on utilisent sont jamais satisfaisants. On y reviendra peut-être avec Laetitia. Mais du coup, voilà, c'est toute la difficulté. Donc il s'agissait, voilà, de les positionner, ces personnes, comme des enquêteurs. Habituellement, ce sont les chercheurs professionnels qui vont interviewer les usagers en santé mentale et qui vont, à partir des données recueillies auprès d'elles, faire une analyse, etc., ne pas les associer aux différentes étapes de l'enquête nécessairement. Là, l'idée, c'était vraiment de les positionner aux différentes étapes de la recherche comme des acteurs à part entière de cette recherche, et donc de les accompagner dans cette démarche.
Un mot, je veux bien rajouter un petit mot. Sur le principe de la recherche action, on part sur l'idée qu'on met en place une recherche qui porte sur des acteurs sociaux, et ici, c'est sur des personnes en souffrance psychique, mais qu'elle est assumée par eux, portée par eux, pensée par eux. Donc on travaille ensemble autour de chercher un peu les causes et les conséquences d'une problématique qui concerne les personnes elles-mêmes à partir de leur propre histoire, de leur propre vécu. Et là, c'est dans notre thème, c'est la disqualification de la parole des personnes en souffrance psychique, pour essayer d'en connaître les causes, les conséquences, mais de ne pas rester sur sa propre représentation des choses, aller se confronter à celles d'autres acteurs, et en l'occurrence, dans la démarche d'enquête, c'est les personnes qui ont été rechercher la parole des professionnels, par exemple dans le domaine de la gestion des tutelles des personnes, aller interroger un juge, donc sortir d'un statut où on n'ose pas toujours dire les choses pour aller interroger ceux qui ont du pouvoir sur leur propre vie, et chercher ensemble à analyser ce qui ressortait un petit peu de ces résultats. Est-ce que les positionnements des chercheurs-acteurs et ceux des professionnels interrogés sont les mêmes? Qu'est-ce qu'ils pouvaient en retirer? Et on y reviendra après. Du coup, ils ont réfléchi à des guides et des recommandations à la fois pour les usagers, à la fois pour les professionnels, pour peut-être mieux se comprendre, s'entendre et dialoguer.
Alors avant de revenir effectivement sur les réalisations, Jeanne, Bernard, votre ressenti à vous, est-ce qu'on peut parler de pari gagné? Est-ce que le seul fait déjà de participer à cette recherche, ça vous a aussi redonné cette confiance en vous, si vous l'aviez perdue, si bien? Et qu'est-ce que ça vous a apporté, du coup, à titre personnel, de participer à cette recherche en tant qu'enquêteur? Si l'un de vous veut se lancer.
Je me lance.
Allez, Bernard. Bon.
Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être là à Paris, bien entendu, hein, pour cette recherche-action, bien entendu, qu'on a menée très, très sérieusement. Mais c'est vrai qu'au départ, on ne connaissait pas du tout, nous, adhérents de l'association, on ne connaissait pas du tout ces recherches-actions, on ne connaissait pas. Hein. Moi, je ne connaissais pas personnellement. Donc, quand on a fait la première réunion à Caen, très important, et donc, j'ai accepté, bien entendu, parce que moi, je suis de Vire, hein, je viens de Vire, hein, du Calvados. J'ai accepté, et bien entendu, j'ai travaillé très très dur aussi, comme tout le monde. Mais moi, bien entendu, j'ai des mails et tout ça. Donc, notre Isabelle Maya m'envoie des mails, tout ça. Donc, j'ai tous les dossiers, enfin tout ça. Donc, j'ai retravaillé à ma façon, si vous voulez, pour aujourd'hui, première pour moi. Hein, de venir à Paris et aussi de participer dans cette aujourd'hui, hein, très important. Et ça m'a aidé, moi, dans ma vie, ça m'a aidé pour l'association Cassis, pour la mieux comprendre aussi, parce que c'est vrai que moi, je suis pas tout à fait dans l'antime mentale, parce que j'ai perdu la mémoire et tout ça. Alors, on m'a reconnu de Michichik, mais il n'y a pas de différence parce que j'ai quand même des difficultés. Donc, je me reconnais de toute façon dans ce recherche-action, bien entendu, avec les tutelles, parce que je suis tutelle, bien entendu, des problèmes de tutelle. Maintenant, on en a moins, mais avant, on en a plus. C'est moi qui avais proposé ce sujet de tutelle, et j'ai eu du mal, parce que, bien sûr, je ne suis pas tout seul au groupe, mais j'ai réussi quand même. Donc, j'étais en entretien avec une tutelle dans la Manche, avec Cyril, qui n'est pas là aujourd'hui, mais parce qu'on a la semaine mentale qui commence, bien entendu. Donc, mais je le salue très bas parce qu'il nous a très bien aidé avec moi. Et c'est vrai que cet entretien avec les tutelles, ça m'a apporté beaucoup de choses parce qu'il nous a bien accueillis. Ça, c'est vrai. Et même, il nous a bien accueillis, tout ça. Il nous a proposé un café. Enfin, c'est vrai. Ces entretiens ont été magnifiques, importants.
On sent en tout cas, effectivement, que vous êtes enthousiaste sur ce projet et sur la recherche-action. Peut-être que Jeanne veut nous donner aussi son expérience.
Alors, moi, mon expérience, ça m'a énormément apporté d'être à cette recherche-action parce que depuis que j'ai mis le pied à l'étrier dans cette recherche-action, bah, j'ai beaucoup changé dans ma vie. Ça a renforcé la confiance que j'avais perdue un peu parce que j'étais pas tombée dans des bons endroits avec des bonnes personnes. Ça a renforcé mon altruisme parce que penser à l'autre, quand on est dans une association avec des personnes en situation de souffrance psychique, c'est très important parce que l'advocacy, c'est aussi s'entraider, c'est l'entraide mutuelle, c'est beaucoup de choses comme ça. Ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus autonome, d'avoir envie de me battre, pour les autres, pour ceux qui ne peuvent pas parler. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à parler, à dire ce qu'ils ont sur le cœur, à exprimer leurs besoins et leurs difficultés. Et ça m'a permis aussi de me dire que peut-être que la vie, elle est difficile, mais que des fois, ça vaut le coup de se battre. Et je suis très fière d'être là aujourd'hui. Je suis très fière d'avoir fait cette recherche action. Et si c'était à refaire, je courrais pour aller la refaire.
Et alors pour cette recherche, donc vous êtes parti d'un constat qui est que la parole des personnes en souffrance psychique n'est pas prise en compte globalement et que la politique du handicap, d'une façon générale, peut être aussi discriminatoire quand elle est généraliste. Est-ce que vous avez, et là je me tourne à nouveau peut-être vers vous ou Florence, pour des exemples concrets de situations dans lesquelles vous avez vécu ces discriminations et qui vous ont incité du coup à participer à cette recherche pour peut-être Florence là-dessus.
Moi j'en ai une toute simple. J'ai eu un petit garçon il y a 11 ans et la première fois je suis arrivée à la maternité classique, on m'a dit non, vous irez dans une unité mère-enfant pour les personnes en souffrance psychique de à mon handicap, et je me suis battue pour le garder jusqu'à présent auprès de moi. J'ai eu l'impression d'avoir plus à prouver que d'autres mamans, même si j'avais les mêmes inquiétudes que n'importe quelle maman, que jeune maman qui a un nourrisson, on ne sait pas trop comment ça marche ou ça. Il n'y a pas le mode d'emploi qui est livré avec. Et j'avais l'impression que je devais prouver que je savais bien m'occuper de mon enfant pour repartir avec lui. Donc c'était doublement difficile. Autre exemple, dans mon travail, j'étais non seulement une femme, mais je travaillais au milieu d'hommes. J'étais la seule femme parmi des garçons, parce que j'étais jardinier. Et à la Cotorep, malgré mes diplômes, on m'a proposé que les jardins ou la cuisine. Alors j'avais un doc d'histoire de l'art. Donc ça aussi, c'est discrimination. Il m'a fallu près de 15 ans pour atterrir en DRH, à un poste de secrétariat. Donc ça aussi, c'est beaucoup plus... C'est compliqué, c'est long, et des fois, on est découragé. Mais ça vaut le coup de se battre, comme disent mes collègues. Mais tout ça, c'est... Voilà. Il faut qu'on prouve plus que les autres. Même si on a des interrogations qui sont les mêmes que les autres, on doit toujours aller encore plus.
Bravo. Bernard ou Jeanne, peut-être, vous vouliez aussi
alors
partager.
Alors moi, la discrimination, j'en ai vécu toute ma vie parce que à l'école, j'ai vécu le harcèlement scolaire. Parce que j'étais différente, j'avais des difficultés en cours avec les autres et on me mettait tout le temps de côté. J'ai eu aussi des discriminations quand j'ai fait quand j'ai passé mes diplômes, parce que j'avais été dans une école pour apprendre à faire la cuisine. Et au lieu de faire de la cuisine et faire des choses comme tout le monde devait faire, soit je coupais les fruits, ou alors soit je faisais le ménage avec une personne qui me harcelait, qui me pinçait, qui me mettait de côté, et plein de choses comme ça. Et pour me faire des amis, ça a toujours été difficile, parce que vu qu'il y avait un décalage entre ce que moi, mes difficultés et ce que pensaient les autres de moi, ça a toujours été difficile de créer des liens sociaux. Ça a toujours été difficile pour moi, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que j'ai trouvé Advocacy, j'ai trouvé des tas d'amis. Et si j'ai envie... ce qui est important, je pense, c'est que le plus important, quand on a des choses comme ça, c'est de retourner voir ces gens-là et leur dire « Aujourd'hui, voilà ce que je suis devenue. Je ne suis pas devenue grâce à vous. C'est moi qui me suis battue tout seul et je vous emmerde. »
Bernard, est-ce que vous vouliez témoigner vous aussi d'une situation de discrimination ?
Moi, je ne dirais pas ça, je ne dirais pas ce mot-là. Je ne dirais pas ce mot-là parce que ça me... ça me regarde personnellement, Par contre, oui, je suis un peu... Oui, mais c'est normal, voilà. Alors, qu'il y a que moi, je... Alors, il faut quand même préciser une chose. Ça fait des années que je suis dans un CAT. Et c'est curieux parce que j'étais obligé d'aller dans un CAT parce que j'avais travaillé en extérieur, naturellement. Et le problème, moi, j'ai pas été aidé avec mes parents. Ils m'ont laissé à l'âge de 17 ans. Il a fallu que je me débrouille tout seul. Voilà. En fin de compte, c'est ça. Et ensuite, ça n'a pas été facile de faire un chemin. C'était très difficile. Et donc, comme je connaissais beaucoup de monde à Vire, parce que Vire, c'est petit, c'est pas comme Paris. Et donc, ça a été plus facile pour moi, disons. Quand on connaissait des gens, c'est moi qui a demandé une tutelle obligatoire, parce que j'allais pas m'en sortir, parce que je buvais aussi. Donc, je suis un ancien alcoolique. Et justement, samedi, j'avais mis 10 ans d'assistance que j'ai fêté à Vire, après Paris, voilà. J'ai apprécié le CAT. C'est grâce au CAT, c'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité pour moi, c'est grâce au CAT que j'ai pu m'en sortir. Voilà, de cette merde, ce qu'on peut dire. Voilà. Et avec le foyer, parce que c'est vrai que quand je travaillais en fromagerie, je ne pouvais pas aller en vacances. Alors, quand j'étais au CAT au foyer, j'allais en vacances au ski, avec beaucoup de personnes. J'ai retrouvé des vacances et tout ça. Et c'est vrai, et c'est la vérité. Aujourd'hui, je m'occupe d'autres associations qu'Ovocatie, la radio de VRFM, la collation, bien sûr, et puis aussi la musique, du tambour et tout ça. Enfin, bref, j'ai une grande vie associative. Voilà.
Ouais. On reviendra peut-être sur la biographie de Bernard un peu plus tard.
Oui.
Mais pour dire un mot aussi de comment se sont passés ces échanges dans le cadre de la recherche, il y a eu notamment un soutien, un appui des groupes d'entraide mutuelle, l'importance peut-être des groupes d'entraide mutuelle dans le cadre de cette recherche dont on peut parler, et puis surtout donner un exemple aussi de type d'entretien, comment vous avez finalement confronté les institutions, les décideurs, les usagers. Qui veut nous dire un mot de ces focus groups? Vous avez mené des interviews, des focus groups, peut-être Isabelle ou, ou Laetitia là-dessus, l'une des deux ?
Oui, peut-être dire qu'effectivement, juste un mot aussi, c'est que vraiment dans ce type de recherche, l'intérêt que ce soit mené par les personnes elles-mêmes, c'est de mettre au cœur de la recherche les savoirs d'expérience qui reposent sur les savoirs pratiques de l'expérience vécue, des discriminations, de la psychiatrie, etc. Et c'est vraiment à partir de ce savoir que va se co-construire la recherche et que les chercheurs vont pouvoir accompagner les personnes petit à petit à partir de toutes ces difficultés qu'elles ont rencontrées, à élaborer des guides d'entretien pour aller questionner sur ces difficultés-là, précisément les professionnels, les élus, etc. Donc le savoir expérientiel est vraiment une dimension fondamentale. Et l'idée, effectivement, que ce soit une recherche avec les personnes elles-mêmes et non pas sur les personnes, c'est vraiment l'idée qu'il y a une dimension aussi de reprise de pouvoir d'agir pour elles. Et donc elles peuvent tirer vraiment des bénéfices et une plus-value importante d'abord pour elles-mêmes. Et le dernier intérêt ensuite, c'est vraiment aussi que cette recherche, elle est orientée vers le changement social. L'idée d'une telle recherche qui repose sur l'implication même des personnes les premières concernées par ces problématiques, c'est que ça puisse améliorer avant tout leurs conditions de vie. Donc là, l'association Advocacy France est à l'origine d'espaces conviviaux citoyens qui ont inspiré la mise en place des groupes d'entraide mutuelle. Et donc, on est parti à la rencontre de ces espaces conviviaux citoyens pour la région normande et ensuite vers les groupes d'entraide mutuelle pour essayer de mettre en œuvre aussi cette recherche sur d'autres sites. Donc, on partait d'abord des membres de ces groupes d'entraide mutuelle, de ces espaces conviviaux citoyens qui étaient volontaires pour s'inscrire dans cette démarche. Et donc, ça a pu être mené sur... Il y a trois sites qu'on a rencontrés. Et sur deux sites, le travail a pu se mettre en place et vraiment du début à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la réalisation des interviews, et voire au-delà, puisque à Caen, notamment, le groupe a pu avoir différentes opportunités de communication aussi sur cette recherche dans différentes instances en dehors du strict cadre de la recherche. Donc voilà, sur chaque site, il y a un groupe de personnes qui se sont portées volontaires, une quinzaine au départ sur Caen, qui réunissaient donc des groupes d'entraide, des personnes de différents groupes d'entraide mutuelle de Normandie. Et puis sur la région des Hauts-de-France, il y a une dizaine de personnes qui se sont impliquées de deux groupes d'entraide mutuelle de Tourcoing et de Saint-Quentin.
Je crois que Jeanne voulait rebondir.
Oui, moi, je veux rebondir sur ce qu'Isabelle a dit, parce que moi, il y a deux entretiens qui m'ont particulièrement touchée. Un avec la directrice de la MDPH de Caen. J'ai pas du tout apprécié cette personne-là, parce que j'ai trouvé très hautaine, non mais très imbue de sa personne, et elle nous regardait de haut et elle nous a fait sentir très petits par rapport à elle. Et quand je lui ai dit que vivre avec 800 euros, c'était très compliqué, et que je lui ai donné le challenge de vivre un mois avec 800 euros et que je la reverrai dans un mois pour voir si elle avait réussi à s'en sortir, elle s'est tue. Elle n'a pas su quoi nous répondre. Et par contre, j'ai bien aimé celui avec le CLSM, c'est le comité local en santé mentale. C'était deux hommes et ces deux hommes-là, ils ont été très gentils avec nous. J'étais avec Denis Renier qui est dans la tribune. Et ça s'est bien passé et c'était très important et très agréable.
Du coup, c'est les confrontations que vous avez eues, ces interviews dont parlaient Isabelle et Laetitia un peu aussi, ça a vraiment été utile. Ça vous a permis, du coup, concrètement, d'être mieux préparé pour la prochaine fois et du coup, de reprendre confiance pour être...
Parce que la confiance, ça se regagne. Et en faisant quelque chose comme ça, je vous assure que la confiance en soi, on la regagne non seulement par soi-même, mais dans les yeux des autres aussi. Et dans les yeux de ceux qui nous entourent. Et le groupe qu'on a été, on a été très soudés pendant les trois années. Et ça, c'est très important aussi d'être soudés dans ce genre de travail-là.
Je pense qu'un des résultats de la recherche, bon, le premier, c'est de pouvoir être présent et parler en son propre nom face à à une tribune, c'est déjà un très joli résultat. C'est aussi dans sa vie au quotidien, par rapport à ce que tu dis, Jeanne, quelque part, c'est s'autoriser à ne pas se soumettre au statut de quelqu'un, au pouvoir, à son autorité, et à oser dire, tuteur, un professionnel qui nous accompagne, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous me proposez, je ne comprends pas ce que vous me proposez. Par contre, moi, j'ai d'autres idées. Et bien souvent, les personnes ont exprimé un tas d'idées dans cette recherche, un tas de mécontentements aussi, hein, dans les accompagnements, sans oser réellement le dire aux personnes. Et le fait d'aller passer des entretiens, de se confronter à ceux qui décident pour eux d'habitude, peut-être ont autorisé certains à décider un peu plus par eux-mêmes et à oser s'affirmer un petit peu plus et à être présent ici, par exemple, aujourd'hui. Donc, ça a été tout un travail de construction des entretiens. Tu veux réagir ?
Bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est la vérité. Hein, parce que c'est vrai que quand j'ai rentré, par exemple, à Vaucassy, hein, ça fait 11 ans que je suis rentré à Vaucassy, je n'étais pas très à l'aise parce qu'il y avait des différences. C'est obligé, hein, c'est un peu obligé. Et puis, alors, cette recherche a tombé à pic, si vous voulez, a tombé à pic pour moi. Hein. On aurait un feuilleton, hein, mais on ne va pas le faire. Mais elle a tombé à pic, hein, elle a tombé à pic. Et c'est vrai que depuis que je suis à cette recherche, je comprends mieux les adhérents, d'une part, et comprends mieux aussi l'association d'une autre part. Parce que les adhérents, c'est autre chose, l'association, c'est autre chose. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et donc, aujourd'hui, je me sens très à l'aise aujourd'hui, très à l'aise dans cette association-là. Et c'est pour ça que j'étais tout à fait d'accord à être à la recherche. Mais j'ai, à ce moment-là, quand j'avais dit oui, que j'étais d'accord, pour moi, c'était une aventure. Je ne sais pas, je savais pas à ce moment-là comment ça allait dérouler, en fait, des signifiques. Mais vous savez, dans la vie, il faut prendre des risques. Si on ne prend pas des risques, on n'arrive pas à un résultat. C'est la vérité. Voilà. Et en fin de compte, je suis bien content d'avoir commencé et finir en beauté, donc on peut dire. Et que je dirais quand même, pour moi, j'ai fait les entretiens, quelques-uns d'entretiens, c'était très bien passé. On a été, pour ma part, j'ai été bien accueilli. Et ça a été vraiment... Moi, je dirais que ce serait plutôt un nouveau départ dans quelque chose de futur, si vous voulez. Et moi, j'ai bien vu dans ces entretiens-là, avec un professeur et tout ça, hein, et on a bien vu et d'ailleurs, cet entretien-là a duré très longtemps. C'était à l'espace de Granville. Cet entretien-là a duré 3 heures. Et ça a été magnifique, bien entendu, bénéfique pour l'association et même pour moi. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être, quand on va finir la recherche, si vous voulez, on pourrait peut-être faire pas autre chose, mais de faire des méchas dans des radios, etc., etc. Voilà.
Alors justement, la recherche est en train de se terminer. Il faut qu'on dise un mot de ce qui va se passer après, des supports notamment, des supports pour partager le résultat de vos expériences. Comment ça va se passer? Je crois qu'il y a un guide qui va être un film aussi, tout à fait, un film qui va relater le processus de recherche qui est en cours, et puis des guides pour rendre la parole des personnes en souffrance plus efficiente, et puis des guides aussi pour les professionnels. Comment, oui. Parce que c'est le but, c'est de partager maintenant votre expérience. Et alors, comment on fait, comment ça se passe, quand est-ce que ce sera disponible, et enfin, en tout cas, un mot peut-être sur les guides eux-mêmes. Comment on fait pour partager ce savoir expérientiel dont vous parlez auprès des professionnels?
Des trucs comme ça. Hein. Voilà. Voilà. En gros.
C'est en train.
C'est en train.
C'est en cours de préparation, parce que là, on a fait une ébauche. Et demain, on a toute une journée. On a plusieurs journées de travail avant le 20 juin, justement. La journée de restitution des résultats et des guides pour faire ces guides-là.
Alors, on part sur 3 guides différents qui vont être sur 3 guides différents qui vont être sous forme de films d'animation, des petits films d'une dizaine de minutes chacun maximum. Un premier guide qui sera plutôt sur l'explicitation du vécu des personnes, ce qu'elles ressentent quand, lorsqu'elles ne se sentent pas entendues, comprises, écoutées face à d'autres dans des institutions. Un guide de recommandations pour les personnes en souffrance psychique, pour leur donner des informations clés, pour qu'elles osent et qu'elles s'autorisent à poser des questions, à s'informer sur leurs droits, à par exemple connaître qu'elles puissent avoir recours à une personne de confiance pour les soutenir dans leur démarche, et on leur donne quelques recommandations. Et un troisième guide pour des recommandations à destination de professionnels sur comment on s'adresse, comment on rentre en contact, comment on s'assure que les personnes ont réellement bien compris, malgré ce qu'on croit, de ce qu'on échange avec eux, des projets qu'on met en place avec eux, de comment on s'adresse aux personnes. Et il y a sur chacun des guides 6 grandes recommandations déclinées. Effectivement, Jeanne, on va valider et finaliser le fond des guides. Et la forme aussi, et pour la conférence du 20 juin, ils seront finalisés, accessibles sur le site de la FIRA, sur le site d'Advocacy. Voilà. Donc nous vous invitons le 20 juin à venir nombreux.
Alors pour conclure cette table ronde, j'ai envie de peut-être vous laisser un peu le mot de la fin à chacun, si vous avez envie, pour dire un dernier mot sur ce que vous en avez retiré ou sur les espoirs que vous fondez finalement suite à cette recherche. Est-ce que l'un d'entre vous, Florence, peut-être, peut dire un mot ?
Je suis très fière de ce qui vient de se passer. Je pense que c'est nous qui avons les clés de notre vie. Et c'est ce que vous avez tous fait. Vous êtes approprié votre vie. Et je pense qu'on peut, nous aussi, donner des conseils sur ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous. C'est pas forcément aux professionnels de décider à notre place, mais nous, on peut les aider à leur donner les clés. Par exemple, quand ça va pas, qu'on ait le mode d'emploi, par exemple. Quand on va bien, qu'on dit, que si je vais pas bien, je voudrais ci, je voudrais ça. Et ça, c'est très utile, même dans la vie quotidienne. Notamment dans le milieu du travail. Quand ça va pas, dire, j'aurais préféré que vous réagissiez comme ci, comme ça. Et je pense que ça, c'est une piste aussi.
Alors moi, je voudrais finir ce mot par remercier tous ceux qui ont été là pendant ces 3 années. Déjà, je voudrais remercier Alexandre, Isabelle et Laetitia, parce que sans eux, je pense que même si on a été capable et qu'on s'en est bien sorti, je pense qu'ils nous ont bien aidés. Je voudrais remercier tous ceux qui sont là, qui n'ont pas participé, mais qui sont dans la salle, Denis, Joël, comment s'appelle ? Véronique, Alain, Angélique, Virginie, tous mes amis et qui se reconnaîtront, je pense, et qui seront fiers de nous et on pourra leur apporter des bonnes nouvelles, je pense.
Bernard, un dernier mot aussi ? Non, mais un dernier.
Remarquez, j'ai couché ce soir à Paris, mais bon, c'est pas une raison. Non, un dernier très court. Non, que je voudrais remercier. Je voudrais remercier les personnes adhérentes de l'association qui ne sont plus là. Et j'espère qu'on les retrouvera le 20 juin ici, parce qu'ils ont travaillé avec nous pour des raisons personnelles. Vous savez, on ne dépend pas que de l'association, on a aussi notre vie personnelle. Des fois, on prend des décisions en dehors de l'association, ça peut arriver, et ça s'est arrivé. Mais ils vont être là avec nous, j'espère, le 20 juin, pour fêter aussi, parce qu'ils méritent, ils ont fait un travail comme nous, ils méritent aussi avoir comme nous, voilà. Et moi, je voudrais remercier tout le monde ici, à la salle de Paris, parce que tout le monde était attentif, c'est important, c'est très important. Et puis, je remercie bien sûr Alexandre, qui nous a guidés, bien entendu, et aussi, bien entendu, on ne va pas oublier, parce qu'il est présent, Claude Doche, bien sûr, c'est lui qui a fondé la recherche, avoir de l'argent, et ça, c'est très très bien, parce que on avait besoin de ça, apparemment, on avait besoin de ça. Merci. Voilà. Et on va remercier... On va remercier quand même Isabelle et Anesthésia. Et bien, je remercie aussi la FLERA, aussi. Il n'y a pas de raison, parce que les finances, c'est important. Après, je dirais peut-être la quatrième année. Voilà.
Merci, en tout cas.
J'ai juste deux choses à vous dire.
Alors, rapidement, deux choses, Jeanne.
J'ai deux choses à vous dire, deux phrases. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Merci.
Merci à vous. Merci à vous tous.
Excusez-moi, restez 30 secondes. À ce stade, je voudrais vous dire combien la FIRA est extrêmement satisfaite d'avoir soutenu ce projet, pour plusieurs raisons en réalité. Une première raison, c'est que l'objectif qui a été rappelé là, qui est « c'est ma vie et j'en suis un acteur, j'en suis l'acteur principal parce que c'est ma vie » est véritablement la thématique qui sous-tend cette action, cette recherche-action. Donc cela nous satisfait. Mais également, pour une raison plus générale, c'est que depuis que nous travaillons, depuis que nous essayons d'aider les différents projets de recherche, nous avons observé que parmi tous les handicaps, dans beaucoup de domaines, les handicaps qui entraînent une souffrance psychique sont d'abord particulièrement difficiles et sont très souvent les parents pauvres, non seulement de la recherche appliquée, mais aussi de tous les efforts, par exemple, pour l'accès au travail. Et les témoignages qui ont été donnés en sont de très beaux exemples. En règle générale, ce qui a été dit, c'est ce qui existe. On retrouve ces personnes comme jardiniers, comme aides-cuisiniers. Souvent, ils sont cantonnés véritablement là. Et pour finir, il ne vous a pas échappé que, enfin, nous avons réussi à identifier de très bons projets, à les financer, mais pas un seul, celui-là qui nous a tellement séduits par sa qualité, par son intérêt, par l'authenticité de tous les gens qui ont participé, mais également un de ceux qui a été présenté, qui a été primé en 2017, qui sont très proches. L'un des projets qui a été primé a comme signification, comme mot d'ordre, essayer de préparer les gens en souffrance psychique à surmonter la stigmatisation des maladies de cet ordre. Car c'est un problème extrêmement important. Jeanne en a témoigné, Florence en a témoigné également. Il y a cette stigmatisation. Et cette stigmatisation elle-même, elle est inhibante naturellement. Et pour que les gens s'engagent comme cela, il faut être capable de la surmonter. Voilà un bel exemple qui aide à la surmonter. Et j'espère que les deux équipes, celles que nous allons financer dans la recherche, débutent. Et puis, cette équipe-là pourront collaborer. Merci beaucoup et nous sommes très satisfaits.